CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu vas revenir sur la position des maires de France de la réunion de novembre dernier.
Leur congrès, hein, et donc là, ça a été effectivement l'occasion qu'ils s'expriment sur les réductions budgétaires.
Sera suivi d'Alain de Frémont pour sa chronique artistique à la découverte d'un nouvel artiste.
Oui, vous savez, vous ne le savez pas, mais enfin je vous le rappelle, que beaucoup de musées à Paris en Ile-de-France sont gratuits les premiers dimanches de chaque mois. Vous connaissez Jean-Jacques Henner ? Non ?
Non.
Ben moi non plus, avant de visiter le musée qui lui est consacré, que j'ai pu voir gratuitement lors d'un premier dimanche
du mois. Il y a carrément un musée
mois.
À son nom, même on ne connaît pas.
Ben alors.
Et enfin, nous retrouverons en fin d'émission l'association CVB représentée par Louis-Dominique Vinaigro dans la chronique à portée de parole. Chronique dossier du quotidien, tout de suite.
Du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, tu nous parlais tout à l'heure du dernier congrès des maires de France. Visiblement, les maires sont très inquiets. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Les maires ont déclaré qu'ils ne voulaient pas devenir la variable d'ajustement de la mauvaise gestion du gouvernement. Ils sont très inquiets face aux mesures du projet de loi de finances qui prévoit plus de 10 milliards d'euros de ponctions. On verra tout à l'heure comment. Des mesures qui sont hors de portée des petites villes, des communes rurales, mais aussi des agglomérations, départements et régions. Le gouvernement a annoncé une baisse de dotation de 5 milliards d'euros, mais en fait, ce sera le double.
Alors comment s'explique ce doublement de ponction de l'État ?
Alors il y a la ponction assumée et des 5 milliards par amputation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le FCTVA. Fonds qui a pour objet la compensation par l'État aux collectivités locales de la TVA acquittée sur leurs dépenses d'investissement, équipement et travaux. Donc ça a été annoncé. Il y a aussi la baisse des droits de mutation à titre onéreux, la DTMO. Ce sont les taxes perçues par les collectivités territoriales et l'État lors de la transmission de biens immobiliers d'une personne à l'autre. Mais il faut ajouter à cette ponction de 5 milliards la baisse de 1,5 milliard du fonds vert qui aide les communes dans leurs projets environnementaux de transition énergétique et les 1,3 milliard de hausse de cotisation employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la non-indexation de la dotation de l'État sur l'inflation et toute une série d'autres dispositions inscrites dans le projet de budget et défavorables aux élus locaux. En particulier, les maires s'inquiètent des risques sur l'investissement qui pourraient mettre en difficulté des branches entières comme le bâtiment ou les travaux publics pour tout ce qui est rénovation ou construction des bâtiments publics, écoles, crèches, mais aussi entretien de la voirie, des ponts, etc. Ils s'inquiètent aussi du fonctionnement des services publics qui dépendent des municipalités. Et ils ajoutent un effet pervers lié à la réduction du FCTVA, une réduction de 800 millions d'euros qui n'a pas pu être anticipée au niveau local. En effet, si toutes les collectivités avec besoin de financement viennent devant les prêteurs, on risque d'avoir une remontée des taux et une raréfaction des crédits, ce qui ajoutera de la crise à la crise.
Alors, y a-t-il des conséquences d'une autre nature que financière ?
Oui, les maires sont atteints moralement. Alors qu'une crise des vocations se propage avec la démission d'une quarantaine de maires chaque mois depuis le début de ce mandat et d'autres qui annoncent clairement attendre un an et demi la fin de leur mandat mais ne se représenteront pas. Après avoir géré la crise du Covid, la crise de l'énergie, après avoir fait face aux problèmes de logement et maintenant au chômage qui remonte avec la multiplication des plans sociaux, de nombreux maires ont l'impression, en gros, d'un coup de poignard dans le dos, d'autant que ce sont eux qui sont au contact de leurs administrés, de leurs mécontentements ou de leurs besoins. Pour de nombreux maires, ce qui est proposé est insupportable. L'État s'est privé de ses propres recettes. Les baisses d'impôts ont été financées par un accroissement faramineux de la dette de la France. Ce n'est pas aux collectivités d'être purgées à la suite des lourdes erreurs de gestion du gouvernement.
Merci Monique Couteau. Au moment d'ailleurs où cet enregistrement se fait, le débat sur le budget n'est pas terminé, donc nous suivrons cette actualité. Vous pouvez retrouver évidemment l'Association des maires de France sur Internet. Tout de suite, on passe à la chronique Agriculture avec Alain de Frémont. Bande-annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc vous ne connaissez peut-être pas ce nom, Jean-Jacques Henner. Eh bien moi non plus. Avant de découvrir qu'un musée porte son nom à Paris, et gratuit le dimanche en plus. Si 2024 a marqué les 100 ans des Jeux Olympiques, qui sont tenus à Paris, il est aussi permis de célébrer le centenaire de l'ouverture du musée Jean-Jacques Henner.
Mais alors cela ne nous dit pas qui était Jean-Jacques Henner.
Ah oui, tout à fait. Eh bien, Jean-Jacques Henner est un peintre français né à Bernevillers, dans le Haut-Rhin, le 5 mars 1829, et il est mort à Paris 9e, le 25 juillet 1905. Auteur d'une œuvre abondante, présentée dans de nombreux musées, il a une réputation de portraitiste et de dessinateur apprécié de son vivant. Il est surtout connu pour ses nombreux nus féminins aux chairs pâles, ainsi que pour ses portraits, dont certains sont nimbés d'une sorte de flou qui les fait ressentir comme des photographies. Il est resté toute sa vie à l'écart des évolutions artistiques de son époque, et notamment à celle des impressionnistes. On l'appelait d'ailleurs « le dernier des romantiques ». Ses tableaux les plus connus, l'Alsace, Elle attend ou Fabiola, datent des années 1870 à 1890 et vous attendent dans le musée.
Alors, où se trouve ce musée ?
Eh bien, c'est l'autre raison d'y aller, car il est situé au 45 avenue de Villiers, dans un quartier très calme du 17e arrondissement nommé la Plaine Monceau, où vécurent un nombre incroyable d'artistes du 19e et 20e siècle. Au cours d'une promenade dans ce quartier, où on lève les yeux sur une magnifique architecture haussmannienne, on peut en effet découvrir les lieux où ont vécu Édouard Manet, Sarah Bernhardt, Colette, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Alphonse Allais, Marcel Pagnol, Alexandre Dumas, excusez-moi du peu, pour n'en citer que quelques-uns. Le musée propose un parcours fléché pour découvrir ces demeures. Passez notamment par la rue Fortuny, non loin du musée, où vous trouverez de magnifiques hôtels particuliers. En prolongeant cette rue, vous arrivez dans la rue Médéric. Au numéro 9, arrêtez-vous pour jeter un coup d'œil sur l'église suédoise au clocher typique. Elle est rattachée à l'église de Suède d'obédience luthérienne. Mais ce n'est pas qu'une église, mais un site, lieu de rencontre important et très fréquenté par ses membres, marché de Noël, fête de la Sainte-Lucie, diffusion de l'Eurovision. De même qu'il joue, via ses pasteurs, un rôle social de premier ordre, ce que l'église a prouvé durant les attentats de 2015 de Paris et de la pandémie Covid-19.
Merci beaucoup Alain pour cette nouvelle découverte artistique. Enfin, on termine l'émission avec la chronique à portée de parole.
À portée de parole avec Diane Lafront.
Bien, bonjour Louido, merci d'être venu nous voir à Radio VCE. Est-ce que tu peux nous présenter ton association CVB, donc Chaville, les riverains, hein, Chaville-Vélizibar, la date de sa création, son fonctionnement, les différentes activités ?
Bien sûr, bah écoutez, bien, bonjour à toutes et à tous, et c'est avec un grand plaisir que je viens de vous parler de Chaville-Vélizibar. Alors d'abord, Chaville-Vélizibar a 8 ans d'âge. Pour vous la situer, parce que peut-être ça ne dit rien à personne, mais elle est située entre le carrefour Saint-Hubert, sur la rive gauche, vous longez par toute la rue Manérol, puis Morte-Bouteille, vous longez les bois, puis l'allée noire et vous redescendez par la rue de Jouy. Vous voyez, c'est un quartier environ 4 500 habitants, 2/3 sur Chaville, 1/3 sur Vélizy. Donc c'est une association très particulière parce que sur deux communes qui sont elles-mêmes, ces deux quartiers sont eux-mêmes distants du centre de Chaville pour les Chavillois et distants du centre de Vélizy pour les Vélisiens, même si Vélizy-Bas est à l'origine de la ville de Vélizy sur le plan historique. Alors, les activités de CVB pour vulgariser Chaville-Vélizy-Bas, c'est d'une part s'éveiller à la qualité de vie de ce quartier, à la vie de ce quartier, au travers d'une veille sur l'urbanisme, on y reviendra, et d'autre part, de développer des liens sociaux, des activités, d'essayer, encore une fois, de faire vivre. Alors, cette association, elle est évidemment ouverte à tous les habitants et aux riverains de son périmètre, mais elle est également ouverte à toute personne qui est intéressée par ce quartier qui est dit quartier d'Ursine. Et d'ailleurs, nous avons des adhérents de Viroflay, de Vélizy-Haut, de Chaville, d'autres quartiers. Je vais vous parler finances, parce que quand même, voilà. Une association, et c'est oui. Le nerf de la guerre dans notre beau pays,
on
comme partout.
On connaît ça.
Eh bien, CVB ne vit que de ses cotisations, ne reçoit aucune subvention et est fier ainsi.
Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien il y a d'adhérents ?
Alors, le nombre d'adhérents, comme dans toute association, il est à 3 chiffres, mais je vous en dirai pas plus, d'accord. Bien entendu. Il est stable avec okay. Les années, ce qui est déjà une jolie prouesse. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, qu'est-ce que l'on fait aussi ? On fait tous les ans, depuis maintenant 5 ans, une visite du quartier lors de la journée du patrimoine. Et donc, cette année, ça a encore remporté un franc succès, parce qu'on peut voir le quartier dans un sens, dans un autre, s'arrêter dans tel endroit et tel autre. Il y a encore de quoi découvrir. Moi, j'en découvre tous les ans sur l'historique du quartier. Et puis, on distribue aussi des tracts. On est au 26e tract en 8 ans qui a été diffusé sur Chaville sur différents sujets, que ce soit l'urbanisme ou des opérations sociales. Et je n'oublie surtout pas la source Manérole. J'espère que maintenant, aucun Chavillois que tout Chavillois connaît la source Manérole, qui est donc au bout de la rue Manérole, dans le virage légèrement sur la droite, eh bien, juste à l'aplomb, vous avez à gauche, à 10 mètres du bord, la source dite Manérole qu'on a redécouvert en 2020.
Bon, bah, ça fait beaucoup de choses. Alors là, est-ce que tu peux nous parler peut-être plus spécifiquement de la position de CVB sur le 50 rue Manérole, hein, et puis, je crois que tu voulais aussi donner un avis sur la communication de la ville de Chaville.
Alors, le 50 Manérole est d'ailleurs à l'origine de CVB. Alors, je crois qu'on ne peut absolument pas, si on est équilibré, soutenir le projet en l'état, car il faut reprendre à l'origine. D'abord, c'est un terrain municipal. Donc, c'est ce que j'appelle les bijoux de la couronne. Je pense que ce terrain intéresse absolument tous les Chavillois et il faudrait avoir une discussion ouverte et une réunion publique ouverte avec l'ensemble ouverte à tous les Chavillois pour savoir ce qu'ils veulent que l'on fasse de ce terrain municipal, un des derniers. D'autre part, ce terrain est pollué, tout le monde le sait, même la mairie d'ailleurs, et ça, on ne s'attardera pas sur le sujet parce que ça serait bien trop long. La mairie a fait détruire le squash qui était le plus grand club d'Île-de-France à ma connaissance, qui a eu jusqu'à 450 adhérents. Je ne joue pas au squash, hein, donc je ne suis pas là pour défendre le squash, je suis là pour constater qu'un terrain de sport a disparu alors qu'on parle de sport et santé, et que dans 4 ans aux Jeux Olympiques de Los Angeles, le squash sera à l'ordre du jour. Également, la mairie a fait détruire des salles pour les associations, et dans le projet actuel, eh bien, on a réduit terriblement la surface qui sera dédiée aux associations avec ce qu'ils appellent un tiers-lieu, mais j'ai toujours pas compris comment serait géré ce tiers-lieu, et je ne suis pas le seul. Et puis aussi, nerf de la guerre, c'est le coût de ce projet. Parce qu'il y a d'une part le coût de la construction, ça on nous l'a expliqué à moult reprises, et même le 16 janvier dernier, monsieur le maire, dans une réunion publique, nous a expliqué que le coût de fonctionnement serait d'environ, si je ne me souviens bien, 100 000 euros de plus par an, 120 000 euros de charges supplémentaires sur Chaville, et ceci sur l'augmentation du ticket repas pour les parents. Alors, je ne sais pas où on va trouver l'argent. Peut-être qu'il y a une machine à billets par derrière, je ne la connais pas. Donc, je résume, disparition des activités sportives et associatives, pour partie, un terrain municipal, un terrain pollué, et un coût de fonctionnement qu'on ne connaît absolument absolument pas ce que CVB aurait souhaité, c'est même éventuellement avec une cuisine, si tant est que Chaville ait besoin d'une cuisine centrale pour les écoles, ça reste encore en débattre, mais c'est que l'on maintienne des activités sportives, associatives, même qu'on les développe, car je pense que ce quartier en a besoin comme tout Chaville.
Bon, vous voyez, ça serait intéressant qu'on ait un débat sur la cuisine centrale, etc. Parce que, par exemple, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il faut voir, effectivement, c'est viable. Alors, le coût de fonctionnement, il a été estimé avec un 22 agents, en fait. Hein, c'est le coût des agents. Bon, mais il faut voir aussi ce qu'on paye à Elior, hein, puisqu'on était, on avait donné une délégation à Elior. Ça coûte cher aussi. Et parfois, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, on peut-être faire de ce projet de cuisine centrale un projet qui satisfasse beaucoup de familles chavilloises. Il faudra voir aussi si on ne peut pas ouvrir cette cuisine centrale autrement, plus de gens. Enfin bon, je pense qu'il y a... En tout cas, si elle est construite, il faut qu'on en fasse quelque chose d'intéressant. Et voilà.
Encore une fois, CVB n'est pas opposé au principe d'une cuisine centrale. CVB dit simplement, il faut comparer notamment le coût. Parce qu'on dit, Elior ou je ne sais lequel, ça coûte de l'argent. Je suis d'accord, mais quand on nous présente sur un tableau le coût de fonctionnement réel de cette cuisine centrale, quand elle fonctionnera, et le coût actuel, voilà. Par ailleurs, en termes d'alimentation des enfants, je rappelle que la loi EGOGIM est la même pour tout le monde. Les mêmes contraintes s'appliquent à une cuisine centrale en régie ou à Elior. Donc la loi est exactement la même. La seule chose qui a été... proposé, qui a été évoqué le 16 janvier lors de la réunion publique à l'Atrium, la représentante du département a dit c'est très bien parce que ça permet de faire de l'éducation nutritionnelle. Mais la seule chose, elle n'a donné que des exemples de cuisine qui était intégrée dans des crèches ou dans des écoles. Là, on n'en est pas là. C'est une cuisine qui est centrale, qui est excentrée par rapport à la ville de Chaville, qui est loin des écoles. Donc la question même se pose de savoir si c'est le bon endroit pour la situer. Et puis, si je puis me permettre, il n'y a absolument aucune communication de la part de la mairie sur toutes ces questions que l'on pose régulièrement et de façon itérative. Aucune communication. Puis vous avez remarqué, on commence par détruire, ensuite on fait un dépôt de permis pour construire et après on parlera du fonctionnement. Donc si on saucissonne, le saucisson, au bout d'un moment, il devient très très gros.
Alors, je ne suis pas là pour défendre la mairie, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les problèmes de fonctionnement ont été évoqués il y a déjà longtemps. Parce que le coût des 22 agents, on le sait depuis longtemps. Enfin, bon. Mais par contre, ce qui est complètement défaillant, c'est effectivement la communication et la relation avec effectivement, les citoyens dans leur ensemble. Ça, je suis d'accord.
Et je suis d'accord, mais où trouve-t-on les 120 000 euros par an? À qui va-t-on les piquer?
Il va falloir taper.
Hein.
Il faut voir ce qu'on peut effectivement réduire.
Oh, avec la réduction de voilure du Congrès des maires.
Il y a des équilibres à trouver.
Bon. Si c'était si simple, dans ce cas-là, ça pourrait être communiqué. Encore une fois, il n'y a pas de communication.
Oui, c'est-à-dire qu'on demande à des riverains un peu de faire confiance aveuglément à des décisions politiques qui sont donc celles de la majorité. Et c'est ça que je pense que défend Louis XII, c'est-à-dire que on manque de visibilité sur beaucoup de choses. Et même nous, en tant qu'élus d'ailleurs de l'opposition, mais ça on a l'habitude maintenant. On vit avec ça depuis le dernier mandat en place. Donc on s'est habitué à ça, aller chercher l'information. Et nous encore, à la limite, ça va. On a accès, je dirais, relativement facilement aux boîtes mail, à la mairie, au bureau, aux boîtes aux lettres, etc. Mais je n'ose pas imaginer le Chavillois ou la Chavilloise qui habite dans les quartiers et qui, évidemment, est assez relativement éloigné de cette... des institutions.
Pour compléter, dans le projet actuel, il n'y a aucune étude d'impact.
Voilà,
puisque
par exemple,
tu parles des riverains,
oui,
il n'y a aucune étude d'impact.
Voilà, donc c'est
peut-être
ça
deux
qui
camions, peut-être quatre, peut-être du 3 tonnes 5, peut-être plus, peut-être pas, peut-être qu'il y aura du bruit, peut-être que ça sentira le chocolat à 11h du matin, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être qu'on ne sait pas.
Bon, voilà, donc ça me semble assez, de toute façon assez légitime qu'on puisse avoir de sérieux doutes sur la faisabilité du projet.
Alors, tout à fait un autre domaine, parce que tu es médecin aussi. Et donc, tu fais des permanences aux urgences, je crois, à Versailles, à l'hôpital de Versailles. Et tu avais un petit peu envie de nous parler des problèmes d'organisation de la santé.
Alors, c'est encore un coup de gueule. On va encore, j'ai encore passé pour l'emmerdeur. Mais enfin, bon, j'assume, à mon âge, je ne suis pas comme le pinard, ça ne bonifie pas. Écoutez, j'ai 67 ans, j'ai 40 ans d'exercice. J'ai pas mal bourlingué. Je suis retourné au moment du Covid, en mars 2020, au SAMU Centre 15 des Yvelines, parce qu'ils avaient des besoins. Et je dirais que la situation ne s'améliore pas, pour la bonne et simple raison, c'est qu'autrefois, quand vous faisiez le 15, eh ben, c'était parce que vous aviez un problème urgent à régler. Mais maintenant, on a inventé un truc. Un des nombreux ministres de la Santé qu'on a eu depuis quelques années, 7 en 5 ans, je crois, de mémoire. Donc ça tourne, hein, c'est des CDD. Ils ont inventé ce qui s'appelle le SAS. Alors, il faut que vous le sachiez, ça peut vous servir. C'est le service d'accès aux soins. C'est-à-dire, votre médecin traitant n'est pas joignable, n'est pas disponible, vous n'en avez pas, parce que souvent, vous n'en avez pas. Et bien, maintenant, vous faites le 15. Et à ce moment, en journée, hein, s'il vous plaît, en journée. Hein, faites pas ça la nuit, parce que alors là, on vous recevra moyennement, entre guillemets. Eh bien, vous appelez, et à ce moment-là, on a un certain nombre de médecins qui sont disponibles, qui gardent quelques créneaux pour ce genre de demande. Alors ça, c'est très bien, soit pour les patients, pour vous qui nous écoutez, mais le problème, c'est que c'est du travail supplémentaire. Et ce travail supplémentaire, ça a augmenté évidemment le nombre d'appels au centre 15, qui est pour toutes les urgences médicales, et du coup, il y a de plus en plus d'attentes. Il n'est pas rare maintenant que quand vous faites le 15 sur votre téléphone, vous attendiez plusieurs minutes avant que ça décroche, et encore un certain nombre de minutes avant d'être pris en charge par un médecin qui va vous écouter et qui va régler votre problème. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs, comme toujours, que le 15, continuez à le faire, ne vous découragez pas si ça ne répond pas très vite. Je peux vous dire que les gens qui le font sont hyper dévoués, nous sommes nombreux, peut-être pas majoritairement, mais presque des médecins retraités qui essayent de venir dépanner. Et puis je dirais plus globalement, le jour en France où on comprendra que la santé c'est un investissement et non un centre de coûts, eh ben, ça sera une grosse, grosse évolution. Je ne vois pas pourquoi la santé ne serait pas jugée comme l'éducation, comme un investissement pour la population. Plus la population est en bonne santé, moins elle coûtera. Mais ça, si vous trouvez un politique qui comprend ça, eh ben on aura gagné.
Tu voulais dire quelque chose, Monique?
Oui, je disais que...
Ça sent la ME, ça.
Tu demandais à ce que la santé soit traitée comme l'éducation, mais je peux t'assurer que l'éducation n'est pas forcément bien traitée.
J'ai pas dit que l'éducation était bien traitée.
Oui,
j'ai dit que le sujet devait être dans le même
tout
paquet.
Fait, oui.
Après, c'est ça. Je vous rappelle que l'un des derniers gouvernements, qui était un des derniers gouvernements Borne, j'avais regardé, il y avait 16 ministres. Eh bien, la santé était en 13, et le sport en 16, un an avant les JO, par ailleurs. Tout commentaire et voilà, c'est ça. Mais quand vous mettez la santé en 13 sur 16, c'est sûr que vous voyez ça de très très loin, et c'est vraiment pas votre priorité.
Voilà, bah écoute, merci Ludo.
Merci.
Et si vous voulez, bien entendu, vous êtes invité à rejoindre l'association CVD.
Voilà.
Vous avez un site Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Et l'adresse 16 rue Alexis Manérol, mais je crois que Jonathan a toutes les coordonnées.
Tout à fait.
Merci et j'espère, Chavillois, à bientôt l'occasion de vous rencontrer dans Chaville.
Merci beaucoup Louis-Dominique Vanegro d'être venu au studio Radio VCE. Tu es le bienvenu dans notre radio. Tu viens quand tu veux. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve évidemment lundi prochain. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.